Voilà, je vois que Monsieur l'abbé Brandler distribue des feuilles. Ces feuilles sont un petit résumé grâce auquel vous pourrez suivre ce que je vais vous dire pendant 3 quarts d'heure environ. Donc c'est quelques lignes directrices qui vous aideront à bien suivre le fil de cette causerie. Un jour à Turin, en Italie, vint à passer un homme qui cherchait à se documenter sur les jeunes saints, et spécialement sur les jeunes saints qui avaient été apôtres de l'Eucharistie. Alors bien sûr, ils étaient arrêtés chez les Salésiens, maison fondée par saint Jean Bosco. Et puis, dans cette maison, bien sûr, il y avait eu un jeune garçon du nom de Dominique Savio. Alors il y restait quelques jours, environ 3-4 jours, et après avoir vu les professeurs, les élèves, fait un peu d'enquête, cet homme demeura frappé de la façon dont on élevait la jeunesse chez Don Bosco. Qu'est-ce qu'il a remarqué, cet homme, chez Don Bosco? Il a constaté des grands jeux, des jeux débordants de vitalité, les prières faites avec une piété admirable, et surtout la soif de l'Eucharistie chez les élèves. Il vit, en outre, une sainte amitié qui unissait maîtres et élèves. Et alors, à la fin de ce petit séjour chez les Salésiens, il dit à un frère, « Vous savez, j'ai deviné. » « Quoi donc ?»« Le secret de votre éducation. » »« Oh, j'en doute. » »« Si, si, j'ai deviné. » »« Alors dites donc, eh bien, tout votre système est à base d'affection chrétienne. » Tout votre système est à base d'affection chrétienne. Cet homme avait vu juste. Don Bosco mourra en 1888, et 4 ans auparavant, il laissera tomber de sa plume, ce que nous pouvons dire comme étant le résumé de sa vie, de sa pédagogie. Ma pédagogie est fille de la charité. Nous pouvons commencer, si vous le voulez bien, par quelques mots d'introduction biographique sur saint Jean Bosco. Il naît le 16 août 1815 à Murialdo, de parents chrétiens pauvres et pieux, François Bosco et Marguerite Occhina. Et vous savez tous que son père meurt alors qu'il n'a que 3 ans. Donc il sera élevé par sa mère et il aura bien des démêlés avec son frère aîné. Dès sa tendre enfance, il se révèle être un esprit très vif, doué d'une mémoire extraordinaire et d'une mémoire très fidèle. À 9 ans, il nous faut parler d'un songe qu'il a à ce moment-là. Nous allons tout à l'heure y revenir. Ce songe sera pour lui dans le plan de sa vie, dans l'éducation de ses garçons, d'une importance capitale. Nous verrons quelques lignes de ce songe tout à l'heure. En 1835, conseillé par son aîné de 4 ans, Don Cafasso, il rentre au séminaire de Chieri. Et le 5 juin 41, le voilà ordonné prêtre pour toujours. Que prend-il comme devise? Il prend cette devise tirée de l'Ancien Testament, « D'amici animas cetera tolle ». Donnez-moi les âmes et le reste, prenez-le. Le reste, laissez-le. Dès le départ de sa vie sacerdotale, il va s'occuper de jeunes apprentis abandonnés. En 46, 5 ans après, il établit pour une première fois son oratoire, Saint-François de Sales, dans le quartier Valdocco, un des quartiers des bas quartiers de Turin. Et c'est alors qu'il va devenir malade et sa mère va le rejoindre pour l'aider à s'occuper de tous ces garçons qui arrivent sans cesse dans ses oratoires. 3 ans plus tard, en 49, déjà il ouvre un troisième patronage. Et c'est en 54 qu'il va recevoir chez lui ce jeune garçon, ce garçon extraordinaire, bien que tout simple, saint Dominique Savio. Et ce garçon mourra 3 ans plus tard, le 9 mars 1857. En 58, Don Bosco se rend à Rome pour présenter au pape d'alors, Pie IX, le premier projet de sa société salésienne. Déjà depuis 4 ans, Don Bosco a dans sa tête de fonder un institut particulier, une maison religieuse. Et 10 ans plus tard, un décret de louange lui arrivera, donc en 64. Il se fera, bien sûr, nous le savons par sa vie, le soutien, en 70, de l'infaillibilité pontificale lors du premier concile du Vatican. En 75, l'œuvre ne reste pas en Italie, mais elle s'étend jusqu'en Argentine, car 10 missionnaires partent pour l'Argentine. En 77, c'est une date importante à retenir, Don Bosco écrit un traité, un petit traité dont nous allons parler maintenant, c'est ce traité sur la méthode préventive dans l'éducation de la jeunesse. Méthode préventive dans l'éducation de la jeunesse. Et il va mourir quelques années plus tard, le 31 janvier 1888, après une courte maladie, car sa dernière messe sera célébrée le 11 décembre 87. Donc, un mois plus tard, il meurt. Béatifié le 2 juin 29 par Pie XI et le 1er avril 34, canonisé par le même pape, le jour de Pâques. Alors, rentrons maintenant dans ce traité, sa méthode pédagogique. Sa mère, un jour, lui demande « Jean, pourquoi veux-tu devenir prêtre ?» Question capitale, que les parents aiment savoir pourquoi leur enfant qui se destine au sacerdoce veut devenir prêtre. Et Jean Bosco répond, je veux devenir prêtre pour consacrer ma vie aux enfants. Si je puis arriver au sacerdoce, je les attirerai à moi. Je les aimerai et m'en ferai aimer. Je leur donnerai de bons conseils et me dépenserai sans mesure pour le salut de leur âme. Voilà l'idée de Don Bosco. Il a 8-9 ans. Un jeune garçon. Une réponse bien franche, bien claire, bien décidée, bien nette. Eh bien, cette réponse fait écho à ce rêve d'enfance. À ce rêve, alors qu'il avait 9 ans. C'est un songe un peu long. Les songes de Don Bosco, c'est vraiment tout un livre, et des livres ont été écrits sur les songes de Don Bosco. On peut dire que les songes et la vie de Don Bosco sont liés de façon assez intime. Et il agissait souvent en fonction des songes qu'il avait durant la nuit. Voilà ce qu'il écrit sur l'ordre du pape. Il n'avait pas l'intention d'écrire ses songes, mais le pape Pie IX lui a demandé d'écrire ses songes, car Pie IX pensait qu'il était bon pour les successeurs de Don Bosco, pour ses élèves, et pour nous, en fin de compte, il était bon que Don Bosco écrivît pour notre utilité ce qu'il avait vu en songe. Songes qui, bien souvent, vont trouver dans l'actualité, dans la réalité, une place tout à fait particulière. Laissons-le parler. À cet âge, 9 ans, je fis un rêve qui me laissa pour toute la vie une profonde impression. Pendant mon sommeil, il me sembla que je me trouvais près de chez moi, dans une cour très spacieuse. Une foule d'enfants rassemblés là s'amusaient. Les uns riaient, d'autres jouaient, beaucoup blasphémaient. Lorsque j'entendis des blasphèmes, je m'élançais au milieu d'eux, et des poings et de la voix, je tentais de les faire taire. À ce moment-là, apparut un homme d'aspect vénérable, dans la force de l'âge et magnifiquement vêtu. Un manteau blanc l'enveloppait tout entier, son visage étincelait au point que je ne pouvais le regarder. Il m'appela mon nom et m'ordonna de me mettre à la tête de ses enfants. Puis il ajouta, et c'est la phrase importante du songe, « Ce n'est pas avec des coups, mais par la douceur et la charité que tu devras gagner leur amitié. » Commence donc immédiatement à leur faire une instruction sur la laideur du péché excellence de la vertu. Ce n'est pas avec des coups, mais avec la douceur et la charité que tu devrais gagner leur amitié. Phrase capitale qui va nous aider dans l'étude de cette pédagogie propre à Don Bosco. En fin de compte, nous verrons qu'elle n'est pas propre à Don Bosco, mais qu'elle remonte bien avant lui à notre Seigneur lui-même. Laissons-le continuer. Confuse et effrayée, je lui fis remarquer que je n'étais qu'un pauvre gamin ignorant, incapable de parler de religion à ces garçons. Alors les gamins, cessant de disputer, de crier et de blasphémer, vinrent se grouper autour de l'homme qui parlait. Sans bien réaliser ce qu'il m'avait dit, j'ajoutai, « Qui êtes-vous donc pour m'ordonner une chose impossible ?»« C'est précisément, répondit l'homme, parce que ces choses te paraissent impossibles que tu dois les rendre possibles par l'obéissance et par l'acquisition de la science. » Ou par quel moyen pourrais-je acquérir la science? Je te donnerai la maîtresse, sous la conduite de qui tu pourras devenir un sage, et sans qui toute sagesse devient sotte. Mais vous, qui êtes-vous pour me parler de la sorte? Je suis le fils de celle que ta mère t'a appris à saluer 3 fois le jour. Ma mère me dit de ne pas fréquenter sans sa permission des gens que je ne connais pas. Dites-moi votre nom. Mon nom? Demande-le à ma mère. À ce moment-là, je vis près de lui une dame d'aspect majestueux, vêtue d'un manteau qui resplendissait de toutes parts, comme si chaque point eût été une étoile éclatante. S'avisant que je m'embrouillais de plus en plus dans mes questions et mes réponses, elle me fit signe d'approcher et me prit avec bonté la main. « Regarde !» me dit-elle. Je regardai et m'aperçus que tous les enfants s'étaient enfuis. À leur place, je vis une multitude de chevreaux, de chiens, de chats, d'ours et de toutes sortes d'animaux. Voilà ton champ d'action. Voilà où tu dois travailler. Rends-toi humble, fort et robuste, et tout ce que tu vois arriver en ce moment à ces animaux, tu devras le faire pour mes fils. Je tournai alors la tête, et voici qu'à la place de bêtes féroces apparurent tout autant de 12 agneaux, tous gambadant de tous côtés et bêlant, semblait vouloir faire fête à cet homme et à cette femme. À ce moment-là, toujours sommeillant, je me mis à pleurer et demandai qu'on voulût bien me parler de façon compréhensible, car je ne voyais pas ce que cela pouvait bien signifier. Alors elle me mit la main sur la tête et me dit « Tu comprendras bien tout cela en son temps. » À ces mots, un bruit me réveilla et tout disparut. Après cela, il va raconter à sa mère, à ses frères, son songe, et différentes interprétations seront données. Mon frère Joseph disait, tu vas devenir gardien de chèvres, de moutons ou d'autres bêtes. Ma mère, qui sait si tu ne dois pas devenir prêtre? Antoine, d'un ton sec, chef de brigand. Mais ma grand-mère, qui savait pas mal de théologie, alors qu'elle était parfaitement illettrée, énonça une sentence péremptoire, il ne faut pas faire attention aux rêves. Et le saint de conclure bonnement, « Moi, j'étais de l'avis de ma grand-mère, mais malgré tout, il me fut tout à fait impossible désormais de m'enlever ce rêve de la tête. » Et ensuite, Pie IX, à qui Don Bosco racontera ce songe, ordonnera en 58 à Don Bosco d'écrire ce songe. Songe un peu long, mais qui va nous permettre un petit peu de situer le travail de Don Bosco. Don Bosco, nous allons voir maintenant son traité, Nature et but du système. Ça n'est pas un travail scientifique ou scolaire sur l'éducation. C'est plutôt un exposé bref, 10 pages, de quelques principes d'éducation qu'il développe à partir de sa propre expérience avec les jeunes. On peut dire que Don Bosco n'est pas un théoricien, un ingénieur de laboratoire, mais plutôt un médecin qui écoute ses patients, désireux de les garder sains. Et Don Bosco, toute sa vie, jusqu'à sa mort, fut dans le champ de l'action, auprès de ses garçons. Quel est le but de son action, de sa méthode? Son but, c'est de préserver la jeunesse du péché. Par-dessus tout, il est prêtre, médecin des âmes. et donc il veut les garder purs du péché. Don Bosco a été donc ordonné en 41. Il a vu les misères de son temps en Italie, parmi la jeunesse. Et prêtre désireux de donner les âmes à Dieu, son plus grand souci a été d'y remédier à toutes ces misères, à toutes ces calamités. La méthode qu'il va utiliser n'est pas nouvelle en elle-même, mais nouvelle en son temps, car trop longtemps délaissée, trop longtemps abandonnée. Que veut-il créer à Turin, dans son oratoire ? Il veut créer un univers familial, où les enfants puissent trouver une réelle affection, une assistance de chaque instant. Pourquoi Don Bosco a-t-il écrit ce traité si tard ? 35 ans, bien 35 ans, après avoir commencé à éduquer, à mettre la main à la pâte. L'occasion de ce traité est survenue alors qu'il se rendait en France, à Nice, le 12 mars 77. Il allait bénir un hospice, l'hospice Saint-Pierre, et puis à cette occasion, il entretint ses auditeurs de l'éducation salésienne. Les remarques qu'il fit alors ont été très appréciées de tous, et alors il se dit, ce que j'ai dit, il faut que je le marque. Je deviens un petit peu vieux maintenant, le bon Dieu va me rappeler dans quelques années, et dans quelques temps, il faut que je mette par écrit ce que je leur ai dit. Alors, il écrivit ce qu'il avait dit. Et puis, le 23 mars 77, il avait écrit 10 pages de sa méthode, intitulée « Méthode préventive dans l'éducation de la jeunesse ». Et puis, par ailleurs, on peut trouver aussi d'autres éléments, d'autres lettres, par exemple. Don Bosco a beaucoup écrit, des milliers de lettres, des traités aussi pour ses garçons, mais spécialement ce traité sur la méthode préventive. Le plan du traité est assez simple. En premier lieu, il écrit la différence entre le système répressif, que nous verrons, et le système préventif. Ce dernier, système préventif, au dire du saint, est préférable pour quatre raisons, que nous verrons. Deuxième partie, il applique le système avec une insistance prononcée sur trois éléments, la raison, la religion et la charité. Ces trois éléments qui sont les clés du succès auprès de la jeunesse. Troisièmement, il répond à une objection concernant la difficulté d'appliquer ce système et cite de nombreux avantages de ce système. Avant dernière partie, quatrième partie, il parle des punitions. Et enfin, conclut par quelques recommandations d'intérêt d'ordre général. Alors, comment résumer sa pensée ? Nous le ferons en trois points que vous trouvez sur ce résumé. Quels sont les deux systèmes, répressif et préventif, et en quoi diffèrent-ils ? Deuxième partie, nous verrons les moyens que Don Bosco va utiliser dans son système éducatif, la religion, la raison, la religion et la charité. Et puis enfin, troisième partie, nous verrons comment, dans sa façon de concevoir la discipline, le saint sévissait. Il y a, dit-il, c'est le début de son traité, il y a deux systèmes employés de tout temps en éducation, le répressif et le préventif. Il ne part pas de la préoccupation d'obtenir de force, par crainte du châtiment, un ordre propice à la tranquillité de l'éducateur. Mais de l'idée, nous l'avons tout à l'heure vu, qu'il faut à tout prix éviter l'offense à Dieu. Du côté de l'éducateur, ce système est beaucoup plus exigeant que celui de la méthode répressive. Que dit-il ? Ce système-ci, méthode répressive, est facile et particulièrement convenable dans l'armée et, en général, parmi les adultes et les sages qui doivent connaître et se souvenir ce que la loi et ses ordonnances exigent. Dans l'autre, le système préventif, au contraire, tout l'art de l'éducateur doit tendre à empêcher l'enfant de faire le mal par une assistance de toutes les minutes, et c'est beaucoup plus difficile. Il doit le mettre dans l'impossibilité matérielle de pécher. Cela ne sera possible que si l'éducateur se trouve constamment au milieu de ses enfants. À quel titre ? De supérieur ? De surveillant pointilleux ? Non pas, mais plutôt de frère, de père. J'ai trouvé une définition qui peut, me semble-t-il, s'appliquer à Don Bosco pour la paternité. Être père, c'est une initiative d'amour. C'est se donner, c'est aimer quelqu'un avant qu'il vous aime, quand il n'existe pas encore. C'est aimer quelqu'un gratuitement, sans qu'il ait rien fait pour vous. Pensez à Dieu, Dieu a fait ça pour nous. Dieu est Père pour nous. Il nous a aimés avant que nous existions, gratuitement, sans que nous ayons rien fait pour lui. Eh bien, je pense que nous pouvons appliquer cette définition à Don Bosco. Voici les raisons annoncées par Don Bosco pour la préférence du système préventif au système répressif. Premièrement, il préfère ce système préventif au répressif parce que l'avertissement fraternel qui s'adresse à la raison de l'élève l'accompagne toujours. De la sorte, s'il est puni, il en voit la nécessité et l'accepte de bon cœur. Deuxième raison, annoncée par Saint Jean Bosco, l'adolescent oublie facilement les règles de discipline et les sanctions qui sont appliquées. La voix amicale le rappelle à l'ordre avant que le mal ne soit fait. Je cite Saint Jean Bosco, « La principale raison en faveur du système préventif est à voir dans l'irréflexion des jeunes qui, en un moment, oublient les règles disciplinaires et les punitions qui les attendent. En conséquence de quoi, un enfant devient souvent coupable et mérite d'être puni, punition à laquelle il n'a pas du tout pensé quand, par étourderie, il a commis une faute qu'il aurait certainement évitée si une voix amicale l'avait averti. » Troisième raison que Saint Jean Bosco donne, le système répressif peut arrêter un désordre. Certes, à telle incartade, telle punition. Donc le désordre est arrêté, certes. Mais peut difficilement rendre les délinquants meilleurs. Ils vont vouloir se débarrasser d'un joug qui leur pèse et voudront se venger. Au contraire, le système préventif fait de l'enfant un ami qui considère son éducateur comme un bienfaiteur qui veut le rendre bon. Et enfin, quatrième raison, par le système préventif, l'éducateur peut toujours utiliser auprès de l'enfant le langage du cœur. Une fois le cœur conquis, tout est gagné. Et au moins, tout est rendu possible. Comment Don Bosco va-t-il arriver à conquérir ses cœurs d'enfants, à gagner ses élèves, à en faire d'honnêtes hommes et même des saints pour certains d'entre eux? Quels sont ses moyens? Il nous donne la réponse simple et lumineuse. Lumineuse parce que simple. Ce système est basé entièrement sur la raison, la religion et la charité. Nous passons donc à notre deuxième partie, qui sera la plus longue. Les moyens employés par Saint Jean Bosco dans son système, système préventif. Vous voyez, la raison, la religion et la charité. Tout ceci est tiré du traité de 1877. Premièrement, la raison. Tout à l'heure, je vous ai dit que Saint Jean Bosco ne cherchait pas à faire un traité très très systématique, mais il groupe sous ce mot de raison plusieurs concepts, jugement pratique, prudence, compréhension. Donc quand vous voyez Jean Bosco, ces différentes notions, elles sont regroupées sous l'unique notion, l'unique concept de raison. Pour lui, dira Don Le Moine, un de ses pères salésiens, la religion et la raison sont les deux causes principales de son système d'éducation. La religion, comme un mors entre les dents d'un coursier ardent, contrôlent parfaitement le jeune enfant, tandis que la raison, comme des rênes, dirige sa course. L'enfant doit apprendre à se guider lui-même, à employer sa liberté à bon escient. De là naît la nécessité de raisonner l'enfant. Il doit comprendre le bien fondé d'un ordre, d'un point du règlement, d'une sanction. Ce qui n'est pas compris et accepté par lui ne pourra guère le former. Il agira par contrainte, mais n'agira pas parce qu'il a compris. Il faut obtenir que l'enfant arrive à penser, à vouloir comme l'éducateur. Quel travail, c'est immense. Eh bien, ce sera néanmoins facile si l'éducateur sait capter, gagner la confiance de l'enfant, s'il sait créer un climat souhaitable. Il va se mettre au niveau de l'enfant, précisément pour que l'enfant finisse par aimer et vouloir ce que l'éducateur aime et veut. Donc, dans un premier temps, l'éducateur s'abaisse, mais pour tirer l'enfant à son niveau. Ce n'est pas pour rester au niveau de l'enfant, mais pour que l'enfant monte au niveau de l'éducateur. Donc il y a un va-et-vient, une descente et une remontée, et c'est tout un travail que l'éducateur doit s'engager à faire. Alors au Valdoco, la discipline sera une discipline acceptée de bon cœur par l'enfant, discipline non point tracassière, mais empreinte de confiance et de joie. Je voudrais vous donner un exemple qui va illustrer ce que nous venons de dire. Un jour, le saint reçut chez lui, durant l'été de 57, une lettre d'un prêtre de Turin, le suppliant de sauver un adolescent. Âgé de 14 ans, gâté par ses parents, ce garçon avait finalement eu le malheur de fréquenter de mauvais camarades. Déjà, deux d'entre eux étaient en prison. Et il affichait une impiété déconcertante. Don Bosco accepta de voir la mère. En effet, le père était déjà mort. Après quelques minutes d'entretien avec elle, le saint accepta de voir l'enfant et devisa avec lui de santé, de ses occupations. Et l'adolescent, après avoir vu le prêtre, retourne vers sa mère et lui dit « Oh, sympathique ce prêtre. Figurez-vous qu'il ne m'a pas dit un mot de religion. Alors, tu te sentirais de rester avec lui pour continuer tes études ? Pourquoi pas. Mais alors, j'impose mes conditions. Lesquelles ? On ne me parlera jamais de confession. On ne me forcera pas d'entrer à l'église. On me permettra de partir dès que je voudrais. » La mère va voir le prêtre et lui dit les trois conditions. Et le saint sourit et dit « J'accepte. » Et l'enfant rentra chez Don Bosco et dès ce moment-là, en dehors des heures de classe, l'interne fut laissé à lui-même. Alors, durant que les autres élèves allaient à la chapelle, il errait seul dans la cour, mais s'ennuyait ferme. Bien sûr, il essaya de jouer bien tout seul, mais cela s'est bien vite. Dès le troisième jour, alors que les enfants étaient à la chapelle, il s'approcha, regarda par la fenêtre, et puis s'introduisit dans la chapelle, bien sûr, l'œil très sarcastique. Néanmoins, le travail de la grâce faisait son chemin, tranquillement. Don Bosco, discrètement, par les mots du soir, on en reparlera, lui parlait indirectement. Il y avait aussi les bons éléments, mis au courant par le saint, qui entraînait les jeunes, faisant valoir ses réelles qualités sportives. Don Bosco lui-même l'encourageait à être toujours joyeux, mais pas de confession, pas de messe, non, pas de religion, mais sois joyeux. Et un jour vint, où sans la moindre pression, l'enfant vint au pied du prêtre. La partie était gagnée, les conditions ayant été respectées par Don Bosco. Mais notre saint n'avait pas oublié cette vérité qu'il avait jadis exprimée. Dans toute âme, c'est important, dans toute âme jeune, fût-elle la plus misérable, il reste toujours une corde capable de vibrer. C'est le devoir de l'éducateur de la découvrir et d'en tirer des sons. Eh bien, de cet adolescent, il parvint à tirer plus d'un son de cet adolescent. Il savait que l'exercice de la charité est le moyen le plus efficace pour accroître en nous l'amour de Dieu. Il mettait en pratique cette règle avec doigté dans les plus petites occasions. Si dans les premiers mois qui suivirent son arrivée à l'oratoire, il eut souvent besoin d'être rappelé à l'ordre pour ses accès de colère, il parvint en peu de temps, à force de bonne volonté, à se maîtriser lui-même et à créer la paix entre ses propres camarades. Voilà le résumé que Don Bosco fait de ce garçon. Qui était ce garçon? Le connaissez-vous? Michel Magon. Un petit vaurien au départ et un bon garçon par la suite. Ce garçon va connaître une brève maladie et va s'éteindre au patronage de Don Bosco, laissant à tous un souvenir de piété et de charité exemplaire. Voilà ce que Don Bosco a réussi à faire de ce garçon, en s'adressant à sa raison. Ce garçon était doué d'une intelligence normale, mais Don Bosco a utilisé sa raison. Et il en a fait un bon garçon. Mais ce ne sont pas seulement des hommes que Don Bosco veut former, mais surtout des chrétiens, d'authentiques enfants de Dieu. L'exemple précédent vient de nous le montrer. Don Bosco désire que ces garçons portent sur toute chose un jugement chrétien et sachent aussi, dans toutes les circonstances, afficher une attitude chrétienne. Voilà ce que dit Don Bosco. Fréquente confession, communion et messe quotidienne sont les piliers qui doivent supporter l'édifice de l'éducation pour laquelle nous proposons de bannir les punitions. Ne forcez jamais les garçons à fréquenter les sacrements, mais encouragez-les à le faire, leur donnant le plus d'occasions possible. Lors des retraites, des neuvaines, des sermons et des cours de catéchisme, que l'on insiste constamment sur la beauté, la grandeur et la sainteté de notre sainte religion, parce que les sacrements offrent un moyen très facile d'atteindre la paix du cœur et le salut éternel. Et Don Bosco va accorder dans ses patronages, dans ses écoles, une place prépondérante à l'instruction religieuse, ainsi qu'à la prière, et aussi, bien sûr, au sacrement de pénitence et de communion. Le catéchisme. La piété, qui n'est point affaire de sentiments, doit reposer sur des convictions fermes, solides. Et Don Bosco veut qu'on profite de toutes les occasions pour que la vérité divine soit dispensée aux enfants. Pensons à ces mots du soir. L'après du soir, Don Bosco s'adressait très librement à ses garçons de tout un tas de choses. Et simplement, mais profondément, il leur parlait de l'amour de Dieu. Il se savait de faits vécus, de ses songes, plus de 60 songes. C'est grand. C'est beaucoup, important. Et amener ainsi, sans tension, ses enfants à l'amour de la vertu, de la prière, de la pureté. Le père Bonetti raconte, dit de Don Bosco de ses mots du soir, « Dans ses petits mots du soir, il ne se lassait pas de nous enflammer pour la vertu de pureté. » Il décrivait les avantages et les beautés de cette vertu avec une éloquence si passionnée et cependant si réservée que c'était enchantement de l'entendre. Don Bosco va donner à ses garçons une forte dévotion, une dévotion particulière à la Sainte Eucharistie et une dévotion tendre et filiale envers Notre-Dame. Nous verrons la Sainte Eucharistie lorsque nous verrons les sacrements et leur place dans l'éducation salésienne. De façon très spéciale, Marie aurait été pour Don Bosco son inspiratrice, son soutien. Le saint n'oubliera jamais ce fameux songe de ses 9 ans, rappelez-vous bien, origine de l'œuvre d'éducation. Voilà ce qu'il dit dans la vie de Michel Magon. Il faut le dire, la dévotion envers la bienheureuse Vierge Marie est le soutien de tout vrai chrétien. Mais elle est de façon particulière pour la jeunesse. N'oublions pas que le saint s'adresse à des adolescents. Cet âge est celui de la puberté et Don Bosco leur donne le moyen infaillible de conserver leur pureté. Marie est un modèle à imiter et une protectrice très puissante pour protéger cette grande vertu. Parmi les disciples, il y en a un qui l'a particulièrement façonné. Dominique Savio lui avait dit, dès la première fois qu'il s'était vu, « Je suis l'étoffe, vous soyez le tailleur. » Et voici ce que Don Bosco dit de Dominique. Il avait une dévotion spéciale au cœur immaculé de Marie. Chaque fois qu'il se rendait à l'église, il allait devant son autel. Il a prié de lui obtenir la grâce de toujours préserver son cœur de toute affection impure. On peut dire que la vie entière de Dominique fut un acte de dévotion à la très sainte Vierge Marie. Il ne manquait pas une occasion de faire quelque chose pour lui rendre hommage. Et en effet, Dominique Savio fut le fondateur chez Don Bosco de la Compagnie de l'Immaculée, l'année même où Pie IX définit le dogme de l'Immaculée Conception. Dévotion tendre et filiale envers Marie. Dévotion tendre et profonde envers Jésus dans l'Eucharistie, les sacrements. D'où lui vient cette forte, réelle dévotion pour ces deux sacrements, la pénitence et la Sainte Eucharistie, sinon de celui qui fut pour lui le guide de sa propre adolescence, Don Calosso, prêtre de grande vertu. C'est là qu'on voit qu'il faut confier les jeunes aux prêtres qui donnent l'amour de la vertu. Qu'il parle à ses élèves, en particulier ou en public, qu'il prêche, qu'il écrive à ses religieux, qu'il rédige les constitutions des Salésiens, partout, nous pouvons trouver les mêmes recommandations, confession et communion fréquente. Voici ce qu'on lit dans la courte biographie écrite par Don Bosco de Dominique Savio. L'expérience prouve que les plus solides soutiens de la jeunesse sont les deux sacrements de la confession et de la communion. Donnez-moi un jeune garçon qui fréquente ces sacrements, vous le verrez grandir, devenir homme et, s'il plaît à Dieu, devenir très vieux, gardant une conduite exemplaire pour tous. La confession. Dans la vie de François Bézucaud, un autre garçon, un jeune garçon éduqué chez Don Bosco, qu'on dise ce que l'on veut sur les diverses méthodes d'éducation, quant à moi, je ne trouve de base solide que dans la fréquence de confession et communion, et je ne pense pas exagérer qu'en disant qu'en l'absence de ces deux éléments, la moralité devient impossible. Qu'est-ce que le confesseur pour l'enfant? Il est père et ami, guide sûr et médecin. Eh bien, Don Bosco incarna ses qualités au plus haut point. Et bienheureuses les âmes qui passèrent par ses mains sacerdotales. Au sujet de la confession, la fréquence de la confession, il recommandait pour ses garçons d'y aller au début une fois par mois et puis plus souvent encore. Dominique Savio y allait chaque semaine. La communion, voici ce que le Saint nous dit, le deuxième soutien de la jeunesse est la Sainte Communion. Heureux les adolescents qui commencent de bonne heure à s'approcher de ce sacrement avec fréquence et dans les dispositions voulues. Prêtre, Don Bosco n'avait qu'un désir, donner fréquemment le pain vivant aux âmes. Témoin ce dialogue avec François Bézucaud, qui hésitait à venir communier, mettant en avant son indignité. Et le saint répondit, « Ce ne sont pas les saints que Jésus a invités à se nourrir de son corps, mais les faibles, les fatigués, c'est-à-dire ceux qui, en ayant horreur du péché, sont en grand danger d'y retomber à cause de leur faiblesse. » Et si tant de disciples du saint ont conservé ou retrouvé la vertu de pureté, tant en honneur chez ce saint, c'est bien grâce à la réception de la Sainte Communion. Et cela fait écho à une parole de notre Seigneur Jésus-Christ, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. La charité, nous avons vu la raison, la religion, maintenant la charité chez Don Bosco. Souvenez-vous de cette parole dite dans le songe, Don Bosco, ce n'est pas avec des coups, mais avec la douceur et la charité que tu devras gagner l'amitié des garçons. En 1847, il écrit à ses garçons un ouvrage intitulé « Le garçon instruit de ses devoirs de piété chrétienne ». Voilà ce qu'il dit. « Mes chers enfants, je vous aime de tout cœur et il me suffit de savoir que vous êtes jeunes pour que je vous aime beaucoup. Vous trouverez sans peine des écrivains plus vertueux et plus savants que moi, mais vous pourrez difficilement trouver quelqu'un qui vous aime plus que je ne vous aime en Jésus-Christ. » La nature de l'amour de Don Bosco pour ces jeunes est tout entière dans cette phrase. Il les aime en Jésus-Christ. Il ne considère pas chez eux que leur âme. Pardon. Il ne considère en eux que leur âme et non leur capacité purement naturelle, purement humaine. Il voit chez eux leur âme et c'est cela qui les intéresse. D'amici animas. Donnez-moi les âmes. Dans son traité de 77, il résume sa pensée, son action, voici ce qu'il écrit. « La pratique de cette méthode repose tout entière sur ces mots de saint Paul. La charité est bénigne, elle est patiente. Elle souffre tout, espère tout, soutient tout, endure tout. De là, il n'y a que le chrétien qui puisse appliquer ce système avec succès. » Cette phrase « De là, il n'y a que le chrétien qui puisse appliquer ce système avec succès », il la redira un jour, lors d'une visite à l'oratoire d'un ministre du cabinet d'Angleterre, stupéfait de voir tant d'élèves en parfait silence au moment de l'étude. Et cet homme reconnut que, dans son état protestant, les moyens utilisés par Don Bosco manquaient. Et il conclut en l'entretien en disant « Il n'y a que deux solutions, ou la religion ou le fouet. Je le dirai à mon retour à Londres. » Revenons, si vous le voulez bien, sur ce passage de saint Paul. C'est tiré de la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 7. La charité est patiente. La charité chrétienne est patiente. L'enfant, par nature, nous le savons, est faible. Et la patience est indispensable à l'éducateur, étant donné qu'il doit secourir la faiblesse des jeunes. Il doit faire accepter des soins qui, bien sûr, ne sont pas toujours agréables. Et ceux-ci doivent être donnés avec un calme inaltérable durant tout le cours de sa maladie. Celui qui est faible éprouve la nécessité de s'appuyer sur un soutien solide et stable. La charité est patiente. La charité chrétienne excuse tout. Le malade a besoin d'indulgence pour les excès dans lesquels il tombe. C'est ainsi que celui qui est faible a pu, à un moment donné, vouloir agir seul, lâcher le soutien et, par conséquent, tomber. Mais il l'a fait plus par inadvertance qu'en pensant aux conséquences. C'est pourquoi, au lieu de le condamner, on l'excuse. La charité chrétienne espère tout. Le véritable optimisme est celui qui, faisant confiance à l'action de la vertu surnaturelle, dont dépend le succès final, ne cesse d'apporter son entière collaboration, quels que soient les résultats apparents. Il continue, sans relâche, son travail, avec constance, même si des raisons humaines portaient à le considérer comme inutile et à y mettre un terme. Il ne faut jamais désespérer d'une adolescente. Enfin, la charité chrétienne supporte tout. L'application du système préventif comporte de dures fatigues, exige un esprit de sacrifice peu ordinaire. Elle demande à l'éducateur la consécration totale de ses énergies, de tout son temps, au bien de ses enfants. Elle réclame sa participation à la vie d'études, de prière, de récréation et de repos. Qu'il s'intéresse à leur conduite disciplinaire et morale et qu'il accepte les difficultés qui proviennent de la diversité des caractères, des insuccès possibles, du manque de reconnaissance pour son dévouement, des désillusions, de la fatigue d'une vigilance assidue, etc. C'est toute une série ininterrompue de renoncements qui réclame une âme trempée à toute épreuve pour le sacrifice. Et par ailleurs, pour ses collaborateurs, Don Bosco recommande la prudence dans l'amitié, en faisant sien les mots de Saint Jérôme, « Ou bien n'aimez personne, ou bien aimez tout le monde également. » Ne contractez aucune amitié particulière avec les enfants que la Providence a confiés à vos soins. Ayez la charité et de manière agréable pour tous, mais jamais d'attachement sensible pour qui que ce soit. Faisons maintenant, rapidement, une visite dans ces patronages. Qui voit-on, sinon le saint entouré de ses élèves? Voici ce que dira un de ses collaborateurs, Don Caviglia. Don Bosco était un saint de bonne humeur, et parler avec lui remplissait l'âme de vraie joie. La joie manifestée et la sérénité constituaient à ses yeux un facteur moral de premier ordre et une forme de sa pédagogie. Dans sa maison, l'allégresse est le 11e commandement. Et effectivement, Don Bosco réservait au jeu, à la récréation très animée, la place de choix. Dès sa propre adolescence, il s'était attiré l'amitié des jeunes par le biais des jeux. Et il ne fera que continuer dans ce sens une fois ordonné prêtre. Voilà ce qu'il déclare au président Ratazzi. On entoure nos élèves d'une affection, d'une surveillance affectueuse, partout, en classe, à l'atelier, en récréation, afin de pouvoir, au moindre des écarts, les rappeler gentiment à l'ordre. D'un mot, on se sert de tous les moyens que suggère l'affection chrétienne que nous portons à leurs âmes pour qu'ils se détournent du mal et s'appliquent au bien, par conscience, mais pas une conscience quelconque, une conscience éclairée et soutenue par les pensées de la foi. Le résultat de cette charité, de cet amour bienveillant, patient, Saint Jean Bosco l'expérimentera. Tout au long de leur existence, les élèves resteront attachés à Don Bosco, en dépit des écarts du cœur et de la tête. Et surtout, le cœur étant gagné, les parties profondes de l'être, de l'âme, se laissaient pénétrer et transformer. Quel que soit le caractère de l'enfant, dira Don Bosco, son tempérament, son état moral, les parents, que leur fils ne deviendra jamais pire et même produira, sous l'effet du système préventif, quelques améliorations. Voyons maintenant, ça sera notre troisième partie, l'exercice de la discipline chez Don Bosco. Que dit-il? Par ce mot de discipline, j'entends une façon de vivre en conformité avec les lois et les coutumes de l'Institut. Alors, pour solution pratique, dans le problème de l'autorité et de la discipline, cette solution pratique est résolue par la synthèse des éléments que nous avons détaillés dans le système préventif, la raison, la religion et la charité. Dans son traité, quatrième partie, il donne avant tout quelques principes que les éducateurs se feront un devoir de mettre en pratique. Tout d'abord, il faut que le règlement de l'école soit connu de tous. Ensuite, il faut surveiller les enfants constamment. La surveillance est la clé du système et ce doit être une vigilance fraternelle et paternelle. S'efforcer d'être aimé de ses élèves, voilà ce qu'il dit, chaque salésien devra se faire aimer s'il veut être craint. Nous verrons plus tard dans les punitions comment le saint punira. Mais rapidement tout de suite, il retire l'affection et l'attention. Cette sorte de punition négative est très efficace quand on a gagné l'estime de ses élèves. Il faut corriger avec patience, être maître de soi-même, et enfin, ce qui peut être utile parfois, faire usage d'une tierce personne qui a gagné la confiance de l'enfant pour lui faire saisir qu'il est dans son tort et qu'il doit amender sa conduite. En 73, 4 ans auparavant, avant qu'il n'écrive son traité, il écrit à ses Salésiens. Et vous trouvez le résumé sur les feuilles que je vous ai fait distribuer. Une longue lettre résumant les punitions dans la façon dont il voit les punitions dans son institut. Si possible, dit-il, ne faites jamais usage des punitions, qui souvent tuent la confiance, l'esprit de collaboration, en créant une tension entre éducateurs et enfants. Mais s'il le faut, et en son temps il le faut quand une faute a été faite, le système préventif ne retire pas la punition a priori. Don Bosco inscrit ce principe. Prendre garde avant toute chose de fermer le cœur de l'enfant, de l'endurcir, de le clore à l'œuvre positive de l'éducation. À l'exception de très rares cas, les corrections et les punitions ne devraient jamais être données en public et les plus grandes prudences et patiences devront être utilisées pour que l'enfant soit amené à reconnaître sa faute grâce à l'aide de la raison et de la religion. Et, dans les cas les plus pénibles, s'il faut renvoyer l'élève coupable, que l'on fasse usage de la plus grande charité à son égard. Voyez-vous, jusqu'au bout, Don Bosco utilisera et a utilisé la vertu de charité. Le résumé de la lettre, vous l'avez. Avant de punir, il faut être certain de tous les faits. Parce que sinon, nous pouvons punir sans avoir tous les éléments et puis donc être injuste. Être sûr que le coupable sait pourquoi il va être puni. De la classe, ne jamais exclure un élève, dans les cas les plus sérieux, que le garçon soit accompagné au bureau du directeur. Pourquoi ? Parce que sinon, il peut mettre un quart d'heure avant d'y arriver chez le directeur. Ça me rappelle des souvenirs. Que l'on fasse toujours usage de la justice dans les punitions. L'éducateur, dit-il, ne doit jamais sévir quand il est lui-même sous l'effet de la colère, car l'enfant ressent que seule la raison devrait le punir. De même, il ne faut pas punir quand le garçon est sous l'influence de son irritation. La correction donnée à ce moment ne servirait qu'à l'envenimer au plus haut point. Il faut lui laisser un temps de réflexion pour qu'il rentre en lui-même et réalise qu'il est dans son tort. Don Bosco défend dans ses maisons d'user des punitions générales, ni de châtiments corporels. Les punitions doivent être petites et brèves. En général, il faudra éviter et même proscrire les punitions écrites. Ne jamais faire usage de la chambre de réflexion où l'élève demeure dans la l'oisiveté. Don Bosco veut toujours que ses enfants soient occupés. Vous connaissez ce proverbe, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Et enfin, où nous voyons chez Don Bosco une âme de prêtre, inspirer toujours l'espérance du pardon. Il donne d'autres recommandations par rapport aux punitions. Le grand principe chez lui, c'est de prendre garde de ne pas fermer le cœur de l'enfant. Le cœur ouvert, on peut tout faire. Cœur fermé, rien ne passe. En 1880, il relisait pour une dernière fois son traité, il ajouta à ce moment-là, « Avant d'infliger la moindre punition, supputez le degré de culpabilité de l'enfant. L'avertissement suffit, n'employez pas le reproche. Si le reproche suffit, n'employez point le châtiment. » Quand un garçon s'est repenti de sa faute, pardonnez-lui facilement, surtout s'il s'agit d'une faute contre vous. Et par-dessus tout, pardonnez-lui complètement en pardonnant tout. 5 ans plus tard, il écrivait à Don Costa Magna que le système préventif soit proprement le nôtre. Jamais plus de châtiments de caractère pénal, jamais de paroles humiliantes, pas de reproches sévères en présence d'autrui. Mais quand dans les classes résonne la parole douceur, charité, patience. Jamais de paroles mordantes, jamais de gifles fortes ou légères. Qu'on fasse usage de châtiments négatifs, comme retirer sa bienveillance, un regard glacial, une parole de blâme. Et toujours de façon que ceux qui sont avertis deviennent nos amis plus qu'avant et ne s'éloignent jamais de nous décourager. En définitive, Don Bosco pensait que l'éducation ne consiste pas à étouffer l'originalité de l'enfant, mais au contraire à l'épanouir. Il pensait, deuxièmement, que l'éducation ne consiste pas à comprimer les énergies de l'enfant, mais à les discipliner. Il voulait, en fin de compte, que le maître fût le collaborateur nécessaire qui doit apprendre à l'enfant à pouvoir un jour à se passer de lui. Il nous faut conclure cet exposé et j'ai trouvé chez Pie XI, canonisant Don Bosco, me semble-t-il, la meilleure conclusion qui puisse être donnée sur Don Bosco. Voilà ce que Pie XI disait de Saint Jean Bosco le 1er avril 1934. Don Bosco se montra un maître éducateur d'une jeunesse rénovée, avec une méthode absolument nouvelle, et traça ainsi une voie excellente et très sûre pour la science pédagogique. C'est qu'il avait en vue le but civique et social, but soumis cependant au but religieux, dont il découlerait comme l'effet de la cause, puisque l'éducateur brûlait au plus haut degré d'un ardent désir de procurer aux âmes le salut éternel. Selon cette maxime divine, la crainte de la sagesse, le début de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur, la religion devait imprégner intégralement la vie des jeunes gens. Aussi, dès le début et avant tout, Jean voulut les instruire des éléments de la doctrine chrétienne, mais encore, il prit soin de les prémunir par des entretiens et des instructions appropriées contre les erreurs et les ennemis du non-chrétien. Les moyens qu'il employa furent la fréquentation des sacrements, la pratique des vertus, l'apostolat de l'exemple mutuel. Et en vérité, pour ce qui concerne plus spécialement l'éducation morale, telle était la méthode prééducative du serviteur de Dieu qui, par une vigilance attentive, principalement par la douceur et la charité, s'efforce d'empêcher le mal, que lui-même lui donna le nom de méthode préventive, méthode nouvelle qui devait corriger les adolescents plutôt en prévenant contre le mal qu'en se mettant dans la nécessité de punir. Les récréations elles-mêmes furent pour Jean Bosco un moyen et une partie de l'éducation, estimant en effet qu'il fallait avant tout se prémunir contre l'oisiveté, source des vices, et la tristesse s'accompagne. Il insérait des jeux fréquents dans l'étude et le travail. Et il n'était jamais plus heureux que lorsque les cours des maisons salésiennes résonnaient des cris, des bruits et du tumulte de la jeunesse. Les faits proclament combien abondants furent les fruits recueillis grâce à un tel esprit, à un tel maître et à un tel guide. Il nous plaît spécialement d'évoquer un lys très pur de sainteté, le vénérable Dominique Savio. Don Bosco n'a mis en pratique que l'Évangile. Laissez venir à moi les petits-enfants. Je suis le bon pasteur. Mon pasteur connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Et également, il a réussi à mettre en pratique dans ses maisons les béatitudes, chartes de la vie chrétienne. Bienheureux les doux, car le royaume des cieux leur appartient. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci d'avoir écouté. S'il y a quelques questions, peut-être qu'il n'y a pas de questions. C'est bien, j'ai réussi à vous endormir. Formidable. Oui. Ah. Alors, il donne comme raison. Il dit, on peut en employer, mais par exemple, écrire des passages de la Sainte Écriture ou de la vie des saints, qui sont instructives. Mais par exemple, je ne sais pas. J'ai tout oublié. Parce qu'il dit que l'enfant fait ça de façon matérielle et ça lui est tellement, il a tellement hâte d'avoir fini pour être débarrassé que ça ne sert pas à grand chose. Et que l'enfant va faire cela parce qu'il veut le faire, de peur d'avoir plus parce que, s'il ne l'a pas fait, mais l'enfant ne sera pas meilleur. Évidemment, Don Bosco est un saint. Alors, c'est très difficile d'appliquer ses méthodes. C'est très difficile parce qu'il était saint. Donc, il avait sa sainteté rayonnait. Donc, il n'avait pas à utiliser ses moyens coercitifs. Dès qu'il passait, les enfants étaient bien. Et avec lui, il n'avait pas besoin de punir. Donc l'idéal pour l'éducateur est d'être saint. Mais c'est très difficile. Courage. Oui. C'est son état d'adolescence, c'est vrai, à partir de 12, 13, 14. Les enfants, il y a un dressage. C'est vrai. Oui. Bien sûr.
Quand j'étais sur VA, j'ai demandé à M. Manon, jeune homme de 18 ans qui faisait l'idiot, je lui ai dit, c'est marqué dans la Bible, le sage et le silence. Pour le sage, le silence est un trésor. Faites-moi 8 pages. Il me répond avec la Bible, le sage maîtrise des richesses.
Mais au moins, il connaissait sa Sainte Écriture. Ouais. Oui, madame. Bien sûr, et la Sainte Écriture en parle, des châtiments corporels. Hein, on pourrait trouver des citations de la Sainte Écriture dans les Proverbes.
Frappe ton enfant quand il est petit, si tu ne veux pas que tu te frappes,
oui.
Dans les Proverbes.
Et c'est tout à fait juste, c'est vrai. Mais c'est vrai que Don Bosco s'adresse à une tranche d'âge, l'adolescence. L'adolescence. Et oui. Il faut s'efforcer que les règlements soient bien connus. Mais aussi, étant donné que l'enfant oublie facilement les règles, hein, l'enfant est volage, il faut être constamment auprès de lui pour lui rappeler. Pour lui rappeler toutes les règles. Voilà ce qu'il disait. La principale raison pour ce système préventif est à considérer dans les réflexions des jeunes, qui, en un moment, oublient les règles disciplinaires et les punitions qui les attendent. En conséquence de quoi, un enfant devient souvent coupable et mérite d'être puni. Il a enfreint le règlement, donc il faut qu'il soit puni. Mais, entre parenthèses, il dit, cette punition, il l'a entièrement oubliée.
lorsqu'il a fait sa bêtise. Mais si quelqu'un avait été là pour l'empêcher de commettre une infraction, eh bien l'enfant aurait continué sa route sans dévier. Il a oublié la punition prévue pour l'infraction, l'incartade en particulier, en question. Donc il a fait sa bêtise, il n'a pas pensé à sa punition. Oui. Est-ce que j'ai répondu à votre question, M. Poulain ? Que l'enfant connaisse bien la règle, mais qu'on soit toujours là pour la faire appliquer. Parce que sinon on lui dit, il y avait la règle, numéro 43. Oh ben 43, papa j'ai oublié. Donc il faut être là pour les aider à pratiquer la règle qui est nécessaire. Et il faut qu'il y ait une règle. C'est tout à fait juste. Monsieur l'abbé ? Oui, les mots du soir, c'est ça, oui. Oui, c'est ça, oui. Par exemple, le matin, comme ce qui est fait ici, par exemple, ou dans d'autres écoles, toute l'école est rassemblée, puis quelques principes. Quelques avis qui sont tout à fait informels, mais qui aident les enfants à se rappeler, bon, aujourd'hui, tel et tel point particulier, et pourquoi, pour quel motif. Mais le soir, c'est encore mieux parce que l'enfant va se coucher. Donc il reste sur cette impression de paroles fortes et puis encourageantes. Donc le soir est quand même beaucoup plus privilégié que le matin. Parce que l'enfant s'endort dessus. Et la nuit est capitale pour l'enfant. Et son sommeil est apaisé par ce mot qui l'a enthousiasmé à être demain meilleur. C'est un petit peu le sens de ces mots du soir. Puis aussi Don Bosco passait de lit en lit près des enfants pour dire un mot particulier. Et parfois, il n'allait pas à certains lits. Il sautait les lits. Il passait à côté. Et l'enfant se disait, oh, Don Bosco ne m'a pas vu ce soir. Et ça trottait dans l'esprit. La conscience agissait. Et l'enfant, le lendemain, souvent, eh bien, allait se confesser. Oui. Oh, parfois il n'y avait pas de parents. Alors, c'est ça. C'était des gamins des rues qu'il accueillait. Donc il n'avait pas ce problème, parce que les enfants restaient chez lui. C'était peut-être plus facile pour lui, parce que les enfants étaient à la langue chez lui. D'accord, oui. Vous voyez, ces adolescents, ils les recueillaient dans la rue, et comme ça, il les avait vraiment, vraiment avec lui. Et puis, il leur apprenait un métier, et puis après ça, les enfants partaient. Mais sinon, bien sûr, il exigeait des parents la collaboration, parce qu'il a aussi eu de bons enfants, de bonnes familles, comme la famille de Dominique Savio. Il n'y avait pas de problème avec ça, c'est sûr. Il y avait des petits noyaux de garçons. Par exemple, Dominique Savio était responsable de cette compagnie de l'Immaculée. Et avec d'autres garçons, ils allaient de préférence vers les garçons seuls, Dès qu'il y avait un garçon seul ou en petit groupe qui parlait, qui ne jouait pas, Don Bosco avait mis chez les, un petit peu ses capitaines, on pourrait parler comme ça, ses enfants responsables, un petit peu, de ses enfants qui ne jouaient pas. Et puis, il les attirait au jeu. Il ne voulait pas que les enfants soient laissés à eux-mêmes. Toujours ensemble, toujours pris, toujours entraînés. Et puis, ça se voyait assez facilement, des garçons qui parlaient mal ou qui voulaient fuir. Hein, ça. Donc, ces enfants étaient envoyés vers les mauvais, vers ceux qui filaient mal, pour être rattrapés. Comme ce Michel Magon, hein, qui est arrivé délinquant, et peu à peu est arrivé à devenir un bon garçon. Un dernier mot, après ça, c'est la messe. Rappelez-vous, dit Don Bosco, que l'éducation est un art difficile et que seul le bon Dieu en est le véritable maître. Nous ne parviendrons jamais à réussir à moins qu'il nous enseigne le chemin. Tout en dépendant humblement et entièrement de lui, nous devrions tâcher de toutes nos forces à acquérir cette force morale qui est étrangère à la violence et à la sévérité glaciale. Efforçons-nous de nous faire aimer pour faire pénétrer dans l'âme de nos élèves l'idéal élevé du devoir et la sainte crainte de Dieu, et nous posséderons sans tarder leur cœur. Alors, avec aisance naturelle, ils nous rejoindront en louant Jésus-Christ notre Seigneur, notre modèle et notre exemple en toutes choses, mais surtout dans l'éducation des jeunes. Voilà la conclusion que Don Bosco mettait à sa grande lettre de 73, du 29 janvier 73, à ses Salésiens. Dieu est le seul et véritable maître de l'éducation chrétienne. Voilà. On va faire une prière, si vous voulez bien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Notre-Dame des Écoles, Saint-Joseph, Saint-Pilice, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Oui.